VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel au Niger. La justice militaire a rejeté ce matin les demandes de mise en liberté provisoire des civils impliqués dans la tentative de coup d'État de décembre 2015, confirmant ainsi les ordonnances du juge en charge de l'instruction. En rappel, c'est le président Issoufou Mahamadou lui-même qui a annoncé en fin d'année dernière que ses services de renseignement ont déjoué une tentative de coup d'État contre son régime. Plusieurs officiers de l'armée, dont un général, avaient alors été arrêtés. Des civils majoritairement composés de militants de l'opposition ont également été mis aux arrêts. Ils sont depuis lors dans différentes prisons du pays. Un procès inédit s'ouvre lundi devant la Cour pénale internationale. Un djihadiste malien présumé a prévu de plaider coupable de destruction de mausolées classées au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Le Touareg Ahmad Al-Fakih Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 9 mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yaya entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. Un groupe rebelle au Nigeria menace de déclarer l'indépendance du delta du Niger, une région riche en pétrole, Chérubin Dorsil.
Les vengeurs du delta du Niger, NDA, accusent le président Muhammadu Buhari de conduire le Nigeria à la faillite et d'être un agent de division. Dans un communiqué publié hier jeudi, le nouveau groupe armé lance un ultimatum à Abuja pour que le gouvernement améliore sa gestion, sinon une déclaration d'indépendance interviendra le 1er octobre. Avant la NDA, d'autres groupes rebelles ont toujours réclamé une meilleure répartition des richesses du pays. Le Nigeria traverse une période difficile, notamment à cause de la chute des prix du brut. 70% des revenus de l'État nigérian proviennent du pétrole. Le pays s'est fait dépasser par l'Angola dans l'exportation de l'or noir et a rendu à l'Afrique du Sud l'honneur d'être la première économie du continent. La compagnie pétrolière nationale NNPC et de nombreuses multinationales ont des installations pétrolières dans la région du delta du Niger, où elles sont la cible d'attaques des NDA depuis février de cette année.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Il y a 10 ans, jour pour jour, le bateau Probokoala déversait ses déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Le scandale environnemental a fait des milliers de malades et selon un rapport du gouvernement à l'époque, les déchets avaient causé en quelques semaines 17 morts. Depuis lors, on a observé une prolifération d'associations de victimes dont certains responsables se sont enrichis en détournant les fonds d'indemnisation. Claude Ourou est le président de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques d'Abidjan.
Nous pensons que ça a été un scandale qui n'avait jamais existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais un scandale chimique de cette nature-là n'avait jamais prévalu dans ce pays. Et les dégâts que cela a causés, surtout quand nous observons la façon dont le produit a été répandu dans tous les districts d'Abidjan, dans toutes les 10 communes pratiquement, la ville d'Abidjan, nous pensons que c'était un grand scandale.
10 ans après le Probokoala, cet incident n'est pas seulement un scandale environnemental, mais c'est aussi un scandale financier.
Nous pensons que c'est un double scandale, dans la mesure où aujourd'hui, les victimes n'ont pas été véritablement prises en compte dans l'indemnisation pour toutes celles qui ont été soumises au mal dû à l'inhalation ou au toucher de ces produits toxiques. C'est pourquoi nous poursuivons 10 ans après notre combat. Le combat-là de prendre en compte l'intérêt des victimes.
Mais vous-même, vous avez été mis en cause pour avoir détourné l'argent qui était destiné aux victimes.
Effectivement, il y a eu cet épisode en Djemer. Et comme nous sommes en des procédures, je pense que judiciaires ont permis de clarifier les choses à ce niveau-là. Et donc, nous ne revenons pas sur un individu qui avait certainement porté plainte en son temps. Je pense que cela a été réglé par nos avocats, mais par la justice ivoirienne. Et nous en tenons à ce que la justice a décidé. Et l'essentiel pour nous, c'est de poursuivre notre combat et ne pas répondre à tout ce qui se fait, ça et là, en termes de dénonciation sans fondement, mais pour mettre à mal le travail que nous sommes en train de faire.
Alors, beaucoup pensent, même s'il y a la responsabilité de Trafigura, peut-être aussi la responsabilité de l'État ivoirien, ils pensent que les responsables d'associations comme vous-même, vous n'avez pas joué franc jeu.
Non, d'abord, il faut évaluer ces indemnisations. Avant de parler d'indemnisation qui n'arrive pas, est-ce qu'on est d'accord que les montants qui ont été alloués aux victimes ne sont pas des montants qui reflètent la réalité? Le nombre de personnes qui ont été prises en compte n'est pas le nombre de personnes qui sont malades en réalité. C'est
alors,
cela
si,
qu'il faut réparer.
Oui, et si ces montants ne reflètent pas la réalité, est-ce que ces montants sont arrivés à leur destination?
Ceux qui le disent peuvent avoir leur raison de pouvoir parler. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que Nous n'avons pas été auteurs de détournement quelconque et nous pensons que l'histoire de ce qui s'est passé ne peut pas se résumer ou on ne peut pas se barricader derrière une question d'un prétendu détournement des fonds alloués aux victimes pour ne pas voir la réalité des faits en Côte d'Ivoire.
Claude Gourou, président de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques d'Abidjan. Il a été joint à Paris et en France par Bagassi Koura. En RDC, les jeunes de la Loucha luttent pour le changement, disent avoir demandé au président Kabila lors d'une rencontre de ne pas se représenter pour un troisième mandat. 46 d'entre eux ont rencontré le chef de l'État congolais hier à Goma. Ils ont également évoqué la situation à Beni, où des massacres répétés ont lieu, dont le premier date du week-end dernier, avec plus de 50 morts. Luc Nkulula, membre de la Loucha, était de la rencontre. Il nous dit ce que le président Kabila leur a confié.
Il nous a quand même promis qu'il y aura des élections. Il ne nous a pas dit quand. Et nous les avons insisté que c'est cette année que nous voulons avoir l'élection. Une passation civilisée entre un président sortant et un président entrant. Et il nous donne un délai de 48 heures pour commencer déjà à nous donner des réponses consistantes sur les questions que nous lui avons posées.
Luc Nkulula, membre de la Loucha, lutte pour le changement à Goma. John Kerry est attendu la semaine prochaine au Kenya, au Nigeria et en Arabie Saoudite. Une nouvelle tournée du chef de la diplomatie américaine dominée par la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a annoncé hier le département d'État. Lundi à Nairobi, M. Kerry aura un entretien avec le président kenyan Uhuru Kenyatta sur les questions de sécurité régionale et la coopération antiterroriste.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
L'émissaire onusien pour la Syrie se félicite de la volonté de la Russie de contribuer à l'établissement d'une trêve hebdomadaire de 48 heures, cela pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la ville assiégée d'Alep. Les précisions, Lionel Gaïma.
Cela fait quelque temps déjà que Stéphane de Mistura appelait à un tel cessez-le-feu qui permettait l'envoi de l'aide, mais aussi les évacuations médicales à partir des zones d'Alep occupées par les rebelles et celles sous le contrôle des troupes syriennes. L'émissaire onusien a fait savoir que l'équipe humanitaire de l'ONU va se mobiliser pour faire face aux défis. Le plan est de travailler collectivement sur les détails opérationnels de manière à livrer l'aide humanitaire dès que possible, a expliqué Stéphane de Mistura. D'un côté, la Russie devra veiller à ce que son allié syrien adhère à la trêve et de l'autre, les États-Unis et les puissances régionales devront obtenir le même engagement de la part de l'opposition armée, a tenu à souligner l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Pour l'heure, plus de 2 millions d'habitants d'Alep manquent de tout. Une situation qui ne cesse d'empirer du fait de l'intensification des combats.
La coalition arabe intervenant au Yémen sous commandement saoudien a indiqué aujourd'hui vouloir engager d'urgence des discussions avec Médecins sans frontières à propos de la décision de cette ONG d'évacuer son personnel de 6 hôpitaux du nord du Yémen. MSF a accusé la coalition de bombardement sans distinction et a affirmé ne plus croire à ses assurances d'épargner les hôpitaux après un raid aérien lundi contre un établissement soutenu par cette ONG qui a fait 19 morts et 24 blessés. L'organisation a ainsi annoncé jeudi le retrait de son personnel de 6 hôpitaux du nord du Yémen. Donald Trump a fait une confession inhabituelle hier lors de son premier meeting suivant le deuxième remaniement de son équipe pour la campagne présidentielle américaine. Il regrette d'avoir offensé des gens avec ses paroles. Donald Trump a renouvelé avec force son appel aux minorités américaines, en particulier aux Noirs. Hillary Clinton, de son côté, s'est réunie avec des chefs de police retraités et en fonction dans une université de New York. Madame Clinton a appelé à déployer des efforts pour réduire la méfiance entre les policiers et les communautés qu'ils servent. On termine avec les Jeux olympiques. Le phénomène jamaïcain Usain Bolt veut décrocher une 9e médaille d'or olympique vendredi à Rio sur les relais 4x100 mètres. L'occasion d'oublier un peu les affaires qui polluent donc les Jeux olympiques. Le sprinteur très confiant a dit se situer entre Mohamed Ali et Pelé en évoquant le boxeur américain et le footballeur brésilien, deux légendes du sport. Usain Bolt a fixé son prochain objectif après son 200 mètres victorieux hier soir en 19 secondes 72 centièmes. Quitter le secteur étroit pour lui de l'athlétisme et accéder à la postérité. Ce statut passe par une 9e médaille d'or olympique aujourd'hui et il rejoindra deux légendes de l'athlétisme, le grand Carl Lewis et le Finlandais volant Paavo Nurmi qui l'attendent au firmament avec leurs 9 médailles. Jean-Roger Bihan à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.